Le journal présenté par Ilan Malcar.
Bonjour à tous. 10e journée d'action aujourd'hui pour les Gilets jaunes, une mobilisation qui sera particulièrement scrutée quelques jours après le lancement par Emmanuel Macron du débat national censé canaliser la colère. Les manifestants se sont retrouvés ce matin en haut des Champs-Élysées avant de se mettre en route vers les Invalides. Nous entendrons dans cette édition Cécile de Quervaz-Doué qui assiste au rassemblement. C'est également aujourd'hui une grande journée de grève et de manifestation en Hongrie. Les syndicats et les partis d'opposition se mobilisent très fortement contre une loi qui a été adoptée. Le texte en question permet à un employeur de réclamer 400 heures supplémentaires par an à ses salariés et à payer les heures en question 3 ans plus tard. Correspondance sur place de Louise Baudet dans ce journal. Et puis aux États-Unis, c'est le 29e jour du shutdown. Les élus démocrates refusent toujours de voter le budget fédéral tant que celui-ci contient les 5 milliards de dollars visant à construire ce fameux mur au niveau de la frontière avec le Mexique. Le président Donald Trump annonce qu'il fera aujourd'hui une annonce importante. De quoi pourrait-il s'agir? Nous aurons des éléments de réponse avec Grégory Philips. C'est donc aujourd'hui le 10e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. À Paris, le rendez-vous a été fixé sur la place des Invalides vers 11h avec une ambition, le million à Paris. Plusieurs rassemblements sont également annoncés cet après-midi à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Clermont-Ferrand ou encore Dijon, entre autres. L'exécutif a prévu un dispositif de sécurité d'ampleur comparable à celui du week-end précédent. Environ 80 000 policiers et gendarmes sont ainsi mobilisés. Cécile de Quervaz-Doué, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Paris, donc aux Invalides, au rassemblement des Gilets jaunes.
S'ils ne sont pas très nombreux, un peu plus de 2000 personnes, oui, ils ont le sens de la mise en scène, comme vous l'entendez, les Gilets jaunes, pour brandir en vrac leur colère des violences policières, leur colère de l'injustice sociale et surtout leur colère de ne pas être entendus par le président de la République. Alors quand on leur parle du débat national...
Que Macron arrête de prendre les Gilets jaunes pour des cons. Il fait sa campagne des municipales et des européennes. Il réunit 600 maires tous les vendredis qui se lèvent et l'applaudissent. Non, il faut arrêter.
C'est pour ça qu'il faut continuer à manifester, disent-ils, alors qu'il commence à neiger. Le cortège est donc parti il y a une demi-heure, direction Place d'Italie, pour une boucle dans Paris qui retournera ce soir aux Invalides. Beaucoup de ces gilets jaunes sont venus de différentes régions de France, du centre, de la Bretagne ou d'Eure-et-Loire, pour chanter « Macron, on vient te voir chez toi pour que tu ne nous oublies pas ». Mais la plupart ont quand même, disent-ils, participé au débat national, comme Pierre et David, venus de Chartres.
Est-ce que c'est un enfumage? Est-ce que c'est pas un enfumage? J'en sais rien du tout.
On sait déjà que les porte-paroles, par exemple, comme Monsieur Griveau, ont dit qu'à la fin, le cap serait maintenu avec la politique précédente. On a l'impression, pas de se faire avoir, ce grand débat va permettre au moins à tout le monde de s'exprimer, qu'il soit d'accord avec les Gilets jaunes ou contre les Gilets jaunes, parce que même si on a tous les mêmes problèmes, on n'a pas forcément les mêmes solutions.
La manifestation doit durer jusqu'à 17h cet après-midi et les Gilets jaunes seront rejoints en chemin par les profs, les employés des hôpitaux de Paris et les étudiants de Tolbiac.
Cécile de Quervaz-Doué, merci à vous. Avec les moyens techniques de Benjamin Thuot, et on rappelle que la semaine dernière, plus de 80 000 personnes avaient été recensées par le ministère de l'Intérieur. Journée de grève et de manifestation également aujourd'hui en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban est confronté depuis un mois à une fronde sociale inédite. À l'origine, l'adoption d'une loi qui permet à un employeur de réclamer jusqu'à 400 heures supplémentaires par an à ses salariés, ces heures pouvant être payables jusqu'à 3 ans après avoir été effectuées. Les syndicats sont vent debout, ils dénoncent une loi esclavagiste, les défenseurs des droits de l'homme et les opposants politiques s'engouffrent également de leur côté dans la brèche pour s'opposer au pouvoir. À Budapest, reportage de Louise Baudet.
Saleté de Fidesz, Orban dégage, nous ne sommes pas des esclaves. Slogan déjà scandé ces 8 dernières années, mais pour la première fois, les droits sociaux priment sur les droits civiques, explique l'économiste Zoltán Pogács. Il décrit un mouvement social d'une ampleur inédite en Hongrie, un mouvement qui sonne le réveil des syndicats. László Kordás préside la Confédération des syndicats hongrois, il accuse Viktor Orban de démolir les droits des salariés. Il a menti aux électeurs, son action conduit à exploiter les travailleurs. Opération Escargot, rassemblement, 160 événements sont annoncés. On n'en est plus seulement à la loi sur les heures supplémentaires, estime Kitty Béchaigne, syndicaliste chez Mercedes. Je veux vivre dans une Hongrie normale, vivable. Je veux qu'on retrouve la démocratie. Aspirations mêlées, besoin d'unité entre les syndicats, les activistes, les partis politiques, tous ensemble contre Orban. Mais à quel prix? Les socialistes hongrois sont désormais prêts à s'entendre avec le Jobbik, parti très très à droite. La politique du gouvernement est bien plus dangereuse que le programme du Jobbik, justifie Balázs Bárány, l'un des dirigeants du MSP. Syndicats politiques, chacun son agenda donc, et chacun son programme. Les premiers privilégient les actions en province, les seconds participeront au rassemblement dans la capitale.
Louise Baudet. L'Italie recense 30 terroristes en fuite à l'étranger, dont 14 en France. C'est ce que déclare aujourd'hui le ministère de l'Intérieur italien dans un communiqué. Le pays souhaite qu'ils soient livrés à la justice pour purger leur peine de prison, à l'image de l'ex-militant d'extrême gauche Cesare Battisti, incarcéré lundi dernier après 37 ans de cavale. Selon le ministère italien, toujours, le gouvernement italien est prêt à des démarches officielles pour demander la collaboration aux pays hébergeant des terroristes, à commencer par Paris. Et d'ajouter, nous espérons une collaboration active et loyale de la part des gouvernements. Theresa May devrait renoncer aux lignes rouges qu'elle s'est fixées sur le Brexit. Voici ce que dit aujourd'hui en substance Phil Hogan, commissaire européen à l'agriculture. La première ministre britannique exclut toujours pour le moment de revenir sur sa décision de quitter l'union douanière et le marché unique. Pourtant, si Madame May revenait sur sa ligne rouge à propos de l'union douanière, la plupart des obstacles qui subsistent actuellement seraient balayés. C'est ce qu'écrit donc Phil Hogan dans une tribune publiée aujourd'hui par The Irish Independent. L'ancien premier ministre britannique John Major formule exactement le même conseil sur les ondes de la BBC. Alors que c'est aux États-Unis aujourd'hui le 29e jour de la paralysie partielle des administrations, le président Donald Trump promet une annonce majeure pour ce soir. 800 000 fonctionnaires sont toujours actuellement au chômage technique ou réquisitionnés mais sans être payés à l'occasion du shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Le bras de fer, on le rappelle, oppose Donald Trump aux démocrates qui refusent de voter le budget fédéral tant que celui-ci contient les 5 milliards de dollars visant à construire ce fameux mur à la frontière sud avec le Mexique. Alors que va donc annoncer le président américain ce soir, sans doute autour de 21h heure de Paris? Rien n'est certain pour le moment, mais il pourrait recourir à une procédure d'urgence qui lui permettrait de financer ce mur sans passer par le feu vert du Congrès. À Washington, Grégory Phillips.
En vertu d'une loi de 1976, le président américain peut déclencher une procédure d'urgence qui lui permet de débloquer des fonds rapidement, sans l'accord du Congrès, si la sécurité du pays est menacée. Tous les prédécesseurs de Trump l'ont fait, W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001 pour augmenter le budget de l'armée, ou Obama lors d'une épidémie de grippe H1N. Donald Trump peut donc choisir de déclarer une urgence migratoire à la frontière sud, par exemple en invoquant la nouvelle caravane de migrants partie du Honduras, et donc déclencher cette procédure qui lui permet de déployer plus de soldats à la frontière mexicaine et surtout de lancer les travaux de son mur sans passer par le feu vert du Congrès. Mais la Maison-Blanche sait que la démarche est risquée car la Chambre des représentants la contestera sans aucun doute. Elle peut aussi être combattue devant les tribunaux. En clair, une telle décision ne garantirait pas la construction de la barrière promise par Trump, mais elle permettrait de suspendre provisoirement le shutdown le temps que la justice se prononce sur cette procédure d'urgence.
Donald Trump, toujours lui, a-t-il demandé à son ancien avocat personnel, Michael Cohen, de mentir devant le Congrès? C'est la nouvelle polémique qui fait rage en ce moment. L'information provient originellement du site BuzzFeed News. Selon ce site d'information américain, Michael Cohen aurait donc menti en 2017 devant les élus américains à propos d'un projet immobilier en Russie à la demande du président des États-Unis. Alors, fait très rare, ces informations ont été démenties par le procureur spécial Robert Mueller lui-même. Il a qualifié ces informations d'inexactes. Cette mise au point a été immédiatement retweetée par Donald Trump lui-même qui a ajouté, je cite, « C'est un jour très triste pour le journalisme, mais un grand jour pour notre pays ». Fin de citation. Au Brésil, des dépôts de sommes d'argent suspects ont été découverts sur le compte bancaire du fils du nouveau président. Flavio Bolsonaro aurait ainsi reçu 48 dépôts d'une valeur totale de 30 000 dollars. L'agence gouvernementale chargée de surveiller les transactions financières n'a pas été en mesure d'établir l'origine de ces dépôts. Ces informations sortent alors qu'il y a quelques jours, la Cour suprême du Brésil a suspendu, sans explication, une enquête sur des mouvements financiers suspects provenant du chauffeur de Flavio Bolsonaro. Il y a donc de nombreux mystères dans cette affaire. Rappelons que la lutte anticorruption a été l'un des grands thèmes de campagne du nouveau chef de l'État brésilien. Cérémonie d'investiture en grande pompe ce matin à Madagascar. Le nouveau président Ange Radzoen, élu le 8 janvier dernier, a prêté serment ce matin dans le grand stade de la capitale devant une foule de près de 40 000 personnes. 35 pays et organisations internationales étaient présentes pour l'occasion, parmi elles 6 chefs d'État africains. Emmanuel Macron, lui, était représenté par son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Autre personnalité remarquée parmi les invités de marque, un certain Nicolas Sarkozy. Récit de cette matinée avec notre correspondante Sarah Tetto.
Pieds nus, le visage grimé d'orange, la couleur du parti du nouveau président, Sarah tente de se faire une place sur la pelouse du stade. Elle est arrivée cette nuit après 24 heures de trajet, fatiguée mais heureuse.
Je viens de suite de Madagascar, je suis venue avec les 3 enfants en gros taxi brousse. Je voulais voir André Duel, j'ai voté pour lui. Pour un... changer notre vie.
À la tribune, Ange Radzoen reçoit les insignes officiels qui font de lui le nouveau chef d'État. Puis au micro, sous l'œil de ses 3 prédécesseurs, tous adversaires à cette élection présidentielle, il rappelle non sans fierté que pour la première fois de l'histoire du pays, les Malgaches viennent de vivre une alternance démocratique et une passation pacifique entre 2 présidents élus. Puis il ajoute:
comme un bateau à voile, le peuple malgache vacille, tombe, mais jamais il ne tombe. Ainsi, je serai un capitaine digne de leur confiance, je vous conduirai à bon port. Le port du développement, le port de la croissance, le port de l'émergence et le port de la réussite.
Le nouveau président n'a pas caché ses ambitions de recourir au financement privé plutôt qu'aux bailleurs traditionnels pour rattraper le retard de développement de l'île. Est-ce la raison de la venue très remarquée de Nicolas Sarkozy, administrateur du groupe Accor? La communication du clan Radzoen affirme qu'il a été envoyé par Emmanuel Macron pour le représenter, ce que l'ambassade de France ici dément formellement.
Sarah Tetto.
La bulle économique, Annabelle Grelier.
La fusion Alstom-Siemens sur une mauvaise voie. De fortes menaces pèsent sur cette union en raison des réticences de Bruxelles à donner son aval, malgré les appels de Paris et Berlin en faveur de la création d'un géant européen du rail pour résister à la Chine. La bulle économique est signée Annabelle Grelier.
Voilà 18 mois que le français Alstom et l'allemand Siemens préparent leur mariage, mais la commissaire européenne chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, n'a pas encore donné son feu vert et les signaux négatifs s'accumulent. Bruxelles s'inquiète de la position dominante de la nouvelle entité qui risquerait de faire grimper les prix et de freiner l'innovation et le développement du ferroviaire dans l'Union européenne. C'est le risque de monopole et c'est le rôle de la commission d'y veiller. Avant de rendre son avis, elle consulte, elle enquête auprès des clients, des concurrents ou encore des consommateurs et tous à ce jour rejettent cette fusion. Les autorités de la concurrence britannique, néerlandaise, belge, espagnole et même allemande sont contre. Les régulateurs nationaux s'inquiètent pour la fourniture de matériel roulant à très grande vitesse pour des trains tels que l'Eurostar et le Thalys. L'Association européenne des gestionnaires de réseaux ferroviaires ont appelé également la Commission à rejeter la fusion. Même chose du côté des syndicats français, belges et allemands. Ils dénoncent un mauvais projet purement financier, une fuite en avant qui à terme menacerait l'emploi.
Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller?
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est monté au créneau début janvier, agitant le chiffon rouge de la menace chinoise.
Si jamais la Commission européenne devait donner une décision défavorable à cette fusion, ça ne serait pas simplement une erreur économique, ce serait une faute politique, parce que ça affaiblirait toute l'industrie européenne face à la Chine. Et ça enverrait le signal face à une Chine qui est conquérante, qui a des moyens qui sont aujourd'hui considérables. On le voit dans le domaine ferroviaire, dans le domaine spatial, dans le domaine aéronautique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, que l'Europe se divise et se désarme.
Et dans le rail, le monstre chinois a un nom, CERC. En chiffres, cela donne la production de 200 trains à grande vitesse par an, quand Alstom et Siemens en produisent 35. Le chiffre d'affaires des deux Européens réunis, c'est la moitié du chiffre d'affaires du géant chinois.
Le droit de la concurrence européen est obsolète.
Pour lutter sur le marché mondial, les gouvernements français et allemands sont déterminés à défendre la création de poids lourds industriels européens.
C'est un droit de la concurrence qui a été créé au 20e siècle et qui fait face à l'émergence de géants industriels du 21e siècle et qui ne permet pas à l'Europe de créer ses propres champions industriels.
À 6 mois des élections européennes, le dossier est de toute évidence très politique. La fusion d'Alstom et Siemens est une façon de renforcer les liens entre Paris et Berlin en montrant la volonté commune d'incarner la puissance économique de l'Union européenne. Mais une fusion ne fait pas pour autant une stratégie industrielle. Et c'est bien ça qui manque aujourd'hui cruellement en France et même en Europe, l'absence de vision à long terme. Car les fusions, elles, se multiplient. En 10 ans, Bruxelles en a autorisé plus de 3000 et bloqué seulement 7, sans que l'on ait vu vraiment émerger de réelles filières leaders et champions européens.
Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller ?
Alors mieux que des fusions, l'Europe de demain devrait miser sur la coopération et le partenariat de ses champions nationaux, recette qui avait d'ailleurs fait le succès d'Airbus.
Aujourd'hui, le temps est pluvieux, particulièrement sur l'ouest et le nord du pays. Les températures de l'après-midi partiront de 4 degrés en Auvergne. Elles monteront jusqu'à 11 en Nouvelle-Aquitaine. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, réalisée à la technique par Jean Frédérix.